to every application of these as the date for launching the new GTLD.
Merci d'assister à cette séance sur les enregistrements défensifs pour les nouveaux GTLD. L'ICANN et nous tous, nous avons trouvé différentes lettres des différents points pour essayer de recevoir un certain type de garantie par rapport au fait que le reste des utilisateurs ait été considéré dans le programme. Ceci est spécialement valable pour les entités qui travaillent depuis des années sur ce programme. Il fallait les éduquer sur la protection existante dans la mesure où les risques associés seraient enfin pertinents et les opportunités qui étaient enfin impliquées par le programme. L'une des questions soulevées dans beaucoup des cartes, c'était le besoin d'enregistrer les entités à un niveau supérieur pour pouvoir fournir une candidature de nouveau GTLD contre tout celui qui pourrait se servir de ce nom. En réponse à ces lettres, l'ICANN a organisé une série d'activités pour reprendre l'enquête et la recherche sur ce thème, pour voir quelles étaient les idées afin d'atténuer les risques liés à la situation, vérifier les opinions et voir quelles étaient les protections existantes. On a donc ouvert un forum de commentaires publics sur ce point. Il y a toute la partie des commentaires et nous avons organisé cette séance comme une manière de promouvoir l'entente et demander les opinions des autres parties. Alors, moi, j'ai envisagé une autre campagne de communication pour fournir du matériel pour ceux qui seraient intéressés à ce sujet de façon à être informés dans la mesure du possible de tout ce qui pouvait être fait. Aujourd'hui, donc, toutes ces personnes se réunissent ici pour nous présenter les thèmes liés à cette question. Je vais vous parler très brièvement du programme. En premier lieu, les membres du panel vont se présenter et ils vont enfin présenter une synthèse du thème. C'est là que l'on peut établir quelles sont les étapes pour la demande de candidature, la portée de la demande de candidature, si les protections existantes sont appropriées ou pas. Et après, le deuxième pas consisterait à réaliser un examen limité des idées qui ont été publiées dans le forum pour le commentaire public. Nous allons le présenter sous une forme résumée parce que les diapositives ont peu d'espace, donc pour peu de mots. Et nous allons demander aux membres s'ils veulent parler des mérites ou du manque de mérites et des nouvelles idées. Il y en a qui ont participé au forum de commentaires publics. Mais pour faciliter la compréhension, Kevin Murphy, notre modérateur, va nous présenter une synthèse de ses commentaires en premier lieu. Et si nous en avons le temps, il y aura une séance de questions-réponses. J'ai l'impression d'être dans une séance karaoké, mais nous avons un excellent panel. C'est des collègues qui sont des spécialistes et qui sont gentils de nous accompagner gracieusement pour parler de ces thèmes. Kevin Murphy est le directeur à qui je vais céder la parole. En premier lieu, nous allons demander à Stacey King de faire quelques commentaires pour commencer cette séance. Nous avons parlé de beaucoup de thèmes et nous vous sommes très reconnaissants de votre participation. Stacey, vous avez la parole. Je voulais faire un commentaire bref par rapport aux antécédents avec vous pour que nous puissions comprendre ce qui se passe, les marques présentes sur le marché. Je suis avocate, je travaille pour une société d'éléments de haut de gamme. Je suis fonctionnaire à l'IPC et je fais partie du conseil d'administration de NTIA. Je ne parle pas au nom de l'entreprise. Ce n'est que mon avis personnel par rapport au temps, puisque je travaille sur ces thèmes et sur la réaction qu'ils suscitent. J'ai parlé du nouveau processus, du nouveau GTLD depuis 2007 dans toute une série de forums. Je fais cette présentation depuis le mois de juillet. Dans une série de points, je vois des propriétaires de marques à tous les stades d'angoisse pour leurs marques. J'ai une explication que l'on peut mettre à jour quand on est concerné et quand on est impliqué dans une conversation avec une société commerciale. Il y a toute une série d'étapes. Des étapes comme celle du maladie, la première c'est le déni, ils vous disent oui, enfin j'ai entendu parler, oui, et mes collègues ont entendu dire, quand est-ce qu'on va aller voir le PDG ou le directeur de marketing. Il y a des gens qui disent que personne ne va se servir de cette marque, ils sont donc à l'étape du déni, et que l'on parle de les bureaux d'enregistrement par contre essaient de voir avec nous, comment faire pour investir plus d'argent pour cela? C'est une fraude. Je ne vais pas céder là-dessus. Et ils disent, bon, OK, portons plainte. Et puis ensuite, ils disent, OK, on passe à l'étape 3, c'est la négociation. Ils nous écoutent, ils veulent savoir si nous allons voir le gouvernement, nous le faisons participer. Ils disent, OK, d'accord, il faut porter plainte, il faut peut-être porter plainte pour quelqu'un. Et la quatrième étape, c'est la dépression absolue. Nous n'allons plus participer, c'est trop, nous avons 10 000 noms de domaines et nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous avons suffisamment de problèmes avec la situation dans laquelle nous sommes et comment nous allons payer tout ça. Leurs entreprises ont un budget et le budget ne comprend pas ce type de chiffres. C'est des chiffres un peu trop élevés pour les sociétés, même si c'est une entreprise qui en est au classement Fortune 500. Et ensuite, nous avons cette situation incontournable ou impossible à éviter. Et cela, enfin, cela a l'air de ne pas être arrivé. Je crois que nous en sommes à l'étape de l'acceptation. On pense donc qu'on peut avoir un modèle d'affaires pour cela. Le 11 avril, vous recevrez un mail du PDG, du directeur de marketing qui dit que vous allez commencer à vous impliquer dans .shop.com.brand. Et nous trouvons quelqu'un à mi-temps qui nous aide sur cela. Le budget est de $190,000 pour tout cela. Alors nous pouvons passer deux ou trois factures et tout à coup, il y a une étape unique de l'ICANN, qui est l'étape 6. C'est l'étape de l'hallucination. Cette communauté est peut-être très traditionnelle, beaucoup plus traditionnelle que les autres. Il faut donc voir ce qui se passe avec Il faut d'abord remplir la demande, le formulaire de demande. Les détails, et ensuite on voit comment ça se passe. Donc d'abord, on va voir le contrat avec le bureau d'enregistrement, puis ensuite nous allons voir. Qui veut le nom de domaine? C'est pas tellement sérieux, c'est pas tellement problématique. C'est, disons, les étapes par lesquelles passe la marque. Je travaille avec beaucoup de marques et les conversations avec les propriétaires de marques peuvent entrer dans un point où ils reconnaissent qu'il faut faire quelque chose et qu'ils en sont encore à l'étape 2. Ils sont très fâchés. Et comme ils ont eu quelques années pour enfin traiter dans leur tête toute cette information et voir ce qui se fait, la plupart des marques, des propriétaires de marques sont furieux, ils sont très fâchés, ils présentent les demandes de candidature d'enregistrement défensif, mais ils vont venir à la table de négociation très fâchés, très en colère. Je voulais vous présenter cette perspective parce que lorsque vous établissez un lien avec un propriétaire d'une marque, pour le bon ou pour le mauvais, les choses se passent comme ça. Je m'appelle Kevin Murphy, bonjour. Nous sommes tous plongés dans cela. Je suis directeur de Domain Insight. Nous allons voir comment est considéré le problème de la défense au moyen de candidatures d'enregistrement défensif. Quelles sont les possibilités que vous allez avoir? Est-ce que nous pouvons commencer par Jeff Brugman d'ADIT? Nous sommes l'une des entreprises qui participe à ce processus depuis longtemps. Nous avons des commentaires très vastes par rapport à tout le programme des GTLD et nous essayons de fournir des réponses équilibrées. Je voulais dire qu'en avril 2009, nous avons présenté une étude économique avec des données recueillies d'une série d'entreprises multinationales sur la question des enregistrements défensifs et cela a prouvé que nous avons tous des milliers d'enregistrements défensifs et un grand pourcentage de ceux qui devraient être défensifs et qui ne donnent pas de contenu unique ou quelque chose que nous pourrions faire au point de vue commercial. Je voulais parler aussi un tout petit peu de l'importance de ceci. Il ne s'agit pas que des coûts ou de la marque. Il s'agit aussi du client et de la marque. J'ai quelques exemples. Des gens très importants de la famille, de la confirmation d'ATIT, le contenu même sexuel d'Internet d'un employé qui n'appartient plus à la société, la vision de la concurrence. Et nous avons pensé que dans un cas, ce serait un site de phishing qui essayait d'obtenir de l'information de votre part. Nous avons pris les choses au sérieux parce que nous essayons de protéger nos clients. L'un des paramètres de conception pour les noms de conception, c'est qu'en premier lieu, il faut que nous ayons un mécanisme de réponse et nous devons envisager le problème en faisant de notre mieux. Nous devrions aussi avoir une procédure pour un type de liste pour ne pas être enregistré et pour vérifier que cela est bel et bien ce qui arrive. Il y a des aspects pratiques du processus, il y a l'opposition, il y a les honoraires d'enregistrement, ce qui a tenu nos préoccupations au plus haut niveau. Nous avons un risque qui est exponentiel au deuxième niveau. Qu'est-ce qui se passe lorsque GTLD rentreront dans le système s'il n'y a pas une protection d'un type ou de l'autre? Nous allons en parler après, mais je voulais établir le lien entre ceci et quelque chose de plus large. Lorsque nous parlons des enregistrements défensifs, nous devons nous occuper du deuxième niveau. Si nous le faisons, c'est préoccupant de ne pas avoir une position par rapport au thème qui apparaît parce que nous faisons du souci depuis 3 ou 4 ans sur ce thème. Nous sommes peut-être dans une meilleure position pour évaluer ces questions lorsque nous évaluerons les présentations de candidatures, les demandes de candidatures, mais nous devons voir ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vois pas qui continue. C'est Stacy qui continue. En termes de demandes d'enregistrement défensif, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles elles sont considérées comme quelque chose de défensif. Il y en a qui sont hors de ce forum. Nous parlons de la concurrence pour savoir si la concurrence va faire cet effort. C'est une séance d'affaires, on ne parle pas de ça. Il y a 3 choses qui suscitent du souci. Il y a des gens qui sont nouveaux dans le processus, ils ne comprennent pas trop comment cela marche, ils sont inquiets. Cela se passe depuis un certain temps, mais la plupart des gens n'ont jamais su que cela existait. Et c'est comme ça, les consommateurs ne savent rien à cet égard et les entreprises non plus. Ils entendent parler de cela pour la première fois. Je crois que la peur est un peu trop exagérée de la part de beaucoup de consultants qui effraient leurs clients et qui vont dans les sociétés commerciales en leur disant ce qui pourrait se passer s'ils ne faisaient pas d'enregistrement défensif, ce qui accroît la peur. Le troisième point, et je crois qu'on parle beaucoup de cela, concerne une inquiétude par rapport au deuxième niveau. Lorsque nous parlons du deuxième niveau, il faut se souvenir qu'il y a une forte inquiétude. Les propriétaires des marques ne crois pas que la protection est sûre au deuxième niveau. Il faut donc envisager tous les problèmes liés à cela. Si nous ajoutons la quantité de nouveaux GTLD, c'est énorme. Lorsque nous voyons la procédure mise en œuvre dans le deuxième niveau, ils ne sentent pas que cela va les aider. Et ils sont en train d'analyser comment passer par cette étape s'ils n'ont pas le soutien de l'ICANN, l'aide de l'ICANN. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de consommateurs dans cette étape.
Kevin. My mother told me a long time ago that I should never say to
Ma mère me disait, il y a longtemps, que je ne devais jamais dire aux gens, moi je te l'avais dit. Je dis que c'était arrogant, qu'on ne pouvait pas dire cela. Mais Likan, je te l'avais dit. J'étais membre de l'ILT avec Stacy. Et il y a quelques 3 ans, nous avons rédigé un rapport pour suggérer ce que nous estimions être une espèce de filet de protection, y compris avec une liste de marques à protection mondiale, avec un blocage pour le reste. Et nous avions pensé qu'il fallait faire une recherche là-dessus, une enquête, parce que c'était le mécanisme le plus demandé. Les propriétaires des marques, les associations qui travaillent avec des marques, une série de personnes... Dans une période de 2 ans pour les commentaires. Nous avons demandé donc qu'une consultation soit faite, que l'on élabore un travail avec le PTO des États-Unis, avec les associations des marques, mais rien n'a été fait. Lorsque le PowerPoint est allé au conseil d'administration, alors le GPML était disparu. Nous sommes encore une fois de nouveau... À une minute, vous allez voir un bon nombre de demandes par rapport à la liste bloquée. Nous sommes à une distance de 30 jours de la clôture de la période de présentation de demandes. Et quelle honte! Je pourrais redire, mais je te l'avais dit, parce que nous, ceux qui travaillons dans la communauté des marques déposées, qui participons à l'ICANN, nous avions dit aussi qu'il y avait de forces obscures et que nous étions, nous, la partie raisonnable. Tout le monde n'est pas intéressé à participer à l'ICANN, mais presque tout le monde pense être en problème. Lorsque nous parlons du système des marques, nous vous l'avions dit, nous vous avions prévenu, nous avons essayé d'être raisonnables, nous avons dit que nous pouvions aller au sein de l'ICANN en tant que membre de la communauté. Et nous valorisons vraiment ce que fait l'ICANN. C'est ce qui se passe en Credo. Avec l'INA et avec Credo, je suis très satisfaite d'en avoir un représentant parmi nous. Mais c'est une partie d'une autre partie de la communauté des marques. Donc, cela me fait mal de voir qu'on nous accuse, nous tous d'essayer d'écraser ce processus. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. J'aimerais bien, écoutez ce que vous avez à dire. Mais qu'est-ce qui se passe avec les enregistrements défensifs? Est-ce qu'ils sont nécessaires? Oui, bien sûr, il faut que certains propriétaires de marques tiennent compte des enregistrements défensifs. Pourquoi? Il y a 185 000 $ et il y a un système juridique de protection et cela suffit. Beaucoup des choses que l'on demande dans les organisations d'IP... Enfin, ces organisations pensent qu'il aurait fallu prendre certaines précautions si on ne l'a pas fait. Le processus de la chaîne de caractères créée par l'ICANN inspire la peur aux propriétaires des marques. Je suis ici et je représente Mars, l'association des propriétaires de marques de l'Europe. Et j'ai un bureau d'enregistrement petit et je travaille aussi comme consultant. Quelques clients... Parmi ce que nous avons, on pense à présenter des demandes d'enregistrement défensif. L'un des problèmes dont Tom a parlé la dernière fois, c'est que si l'on prend une entreprise comme Audi ou une chaîne allemande de supermarchés comme Aldi, elles peuvent se retrouver sur un processus contentieux pour la marque. Mais il faudrait essayer de sortir, il faudrait trouver une sortie pour cet environnement contentieux, pour éviter une vente aux enchères, parce qu'on ne peut pas confondre un supermarché avec une voiture. Il n'y a pas de mécanisme pour cela. Nous devrions avoir un mécanisme qui prévoit une convention de cohabitation. Si cela peut se faire, bon, allons de l'avant. Ce serait vraiment très utile. Mes excuses d'avoir un peu répété ce que j'avais à dire, mais c'était ce que je voulais vous dire. Maintenant, c'est à Steve Del Bianco. Je voulais parler un tout petit peu dans la représentation de BC, qui est la majorité silencieuse de l'ICANN. Parce que les membres sont les responsables de la plupart des registres et des solutions qui sont fournies en Internet pour tous les commerces, pour tous les contacts. Donc, si nous faisons un apport silencieux, parce que lorsque nous parlons des demandes, d'enregistrement défensif. Nous n'avons pas fait tellement de bruit. Il y a une expansion dans la structure avec le nouveau GTLD. EDC semblerait être très content avec les propositions et les objectifs du gouvernement et des autres partis pour arrêter l'abus de la présentation de demandes au plus haut niveau. Mais nous sommes toujours inquiets parce qu'une une affaire qui a un nom, qui constitue un nom propre, nous pouvons parler de points à poule. Et imaginons que Apple n'est pas intéressé. Voyons ce qui se passe dans la fenêtre, dans la période de demande, de présentation de demande. Mais si quelqu'un veut s'occuper et se consacrer au marché des pommes, des pommes et que l'on fait du matériel de promotion, et si l'on a répondu à telle question ou à telle autre question, on demande ce que l'on veut faire. Et Apple Computers veut dire que la compagnie ne veut pas s'impliquer. Qu'est-ce qui se passe lorsque point Apple, les producteurs de pommes, veulent davantage d'argent et commencent à demander ou à permettre à d'autres d'acheter, par exemple, je ne sais pas, des tombeaux point Apple. Pomme. Donc, nous aurions donc une grande confusion là. Les choses pourraient aller encore pire. Alors, Apple Computers irait chez Icahn et lui demanderait de respecter les promesses, de tenir les promesses. Et ils apprendraient que la seule chose que l'ICANN peut faire, c'est d'appliquer les restrictions d'enregistrement aux producteurs de pommes par une demande basée sur une communauté. Et alors là, on ne peut rien faire. Comme Bruce le disait, Apple Computer peut préparer un processus de résolution par délégation des disputes par rapport au TLD de Apple. Mais le bureau d'enregistrement n'est pas responsable des noms enregistrés par des tiers qui sont déjà affiliés avec l'opérateur. Si la personne est intelligente et qui achète computer.apple et qu'il fait un monitoring de l'espace, on ne parviendrait à rien faire pour agir contre tout cela. C'est un cas où tout part en eau de Bouddha, mais une pomme pourrie causerait des problèmes à ICANN. C'est pour cela que nous vous disons il faut que nous soyons intelligents pour monitorer et suivre l'espace. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais quand nous demandons qu'est-ce qu'il y a de mauvais sur .apple computer? Nous ne demandons pas si ce sont modèles appropriés. Ce que nous voulons, c'est savoir si ICANN peut tenir ses promesses et les demandeurs d'enregistrement doivent respecter leurs promesses aussi. Cette année est une année bissextile. Non seulement nous avons plus de temps pour présenter des candidatures et des demandes, nous avons aussi le deuxième niveau. On n'enregistre pas au premier niveau, mais au deuxième niveau. C'est ce que l'on me dit pour 3x. On paye des honoraires, ce n'est pas gratuit. Avec des noms qui sont semblables au terme de la marque déposée PayPal, PayPal account, PayPal whatever, que ce que vous voudrez. Tout cela pour tromper le client, les membres du TLD. Donc, il est important qu'un programme TLD puisse donner des preuves de son intégrité. Je suis Alan Greenberg. Je suis la liaison de l'ALAC avec la GNSO, mais je ne les représente pas ici en ce moment. Ce que je voulais dire a été déjà exprimé par mes collègues, par Steve. Une partie, c'est Nick qui en a parlé. Je pense que je soulignerai ce que Stacy a dit. Le terme de demande d'enregistrement défensif a été utilisé de façon abusive dans d'autres cas. Bien des fois, c'est une question de concurrence. Mes concurrents peuvent faire cela, donc il faut que moi, je le fasse aussi. Si cela est mauvais, nous ne devrions pas avoir le web, parce que beaucoup de personnes ont bâti des réseaux avant que l'on ait pu trouver la manière approprié de le faire. Mais qu'est-ce que ça signifie défensif? Il y a des exemples. Nous sommes malheureusement dans un processus pour lequel il reste peu de jours avant la fin de la période. Et cela, on en parle, et cela avait déjà été mentionné auparavant. je ne sais pas ce que nous pouvons faire à ce moment, si ce n'est parler de cela. Un bon nombre des solutions qui avaient été proposées attireront des procès judiciaires à ICANN, et je ne sais pas si nous voulons rentrer dans ce processus. Je ne sais pas si cela va être efficace. C'est un problème, cela va être malheureux. Nous aurons peut-être des idées excellentes à la fin de la séance, mais je ne suis pas tout à fait optimiste. Konstantinos, vous avez la parole. Merci, Kevin. Je m'appelle Konstantinos Komaitis. Je suis professeur de l'Université de Strathclyde et je suis aussi le président du regroupement des utilisateurs non commerciaux. Mais je parle en mon propre nom et comme quelqu'un qui a fait des recherches sur la tension entre les marques et les noms de domaine pendant les 12 dernières années. Je dois admettre que j'ai été étonné lorsque j'ai vu le titre de ce panel. Je ne pense pas que nous soyons en train de parler d'enregistrement défensif. Comme l'a dit mon collègue Abridoria, ce sont des thèmes d'application concurrentielle. Et la raison pour dire cela, c'est que les deux mots enregistrement défensif dans la même phrase, nous sommes en train de parler de cybersquattage, de cyberdélinquance, cyberoccupation. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui attendent et qui veuillent dépenser de l'argent et des ressources pour se moquer des marques. C'est peut-être un thème pour susciter la colère de certaines marques, mais dans le domaine des noms de domaine, dans une vision plus large, nous avons un système global de marques de noms de domaine. Ce que nous faisons ici, c'est demander aux personnes de rentrer dans une concurrence, et cette concurrence va être injuste. L'exemple qui m'est venu à l'esprit automatiquement, c'était celui de Delta. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des milliers de marques, des propriétaires de marques que, d'une manière ou de l'autre, utilisent Delta pour le nom de la marque. La question est de savoir pourquoi les marques les plus importantes au niveau des enchères ont des droits plus importants sur Delta. Je voudrais aussi revenir en arrière. Nous parlons des propriétaires des marques. Il y a des marques qui sont la propriété de quelqu'un. Il faut qu'elles fassent partie de ce processus. J'ai entendu dire aussi que, à propos de GPML, qui est utilisé très souvent, beaucoup d'entre vous savent déjà où nous en sommes au GPML. C'est un thème qui me semble très dangereux. La WIPO n'a pas encore de liste pour le moment, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et pendant de longues années, ce qu'ils considèrent, ce que l'OMP appelle des marques qui ont un état de super protection au point de vue purement légal, les tribunaux ne peuvent pas trancher. Elles disent qu'elles ont fait cela au cas par cas. Il y a un cas de la Cour suprême sur Victoria's Secret qui a permis qu'il y ait un Victoria's Secret qui vendait de la lingerie pour qu'elle puisse exister. Il est très difficile donc d'avoir une liste spéciale. Ce que je veux que nous fassions, c'est que nous sachions que nous sommes en train de discuter de ces thèmes, et il faut que nous voyons comment le mécanisme de protection actuel va être développé avant l'ouverture du débat pour savoir si on va ouvrir de nouveaux TLD. Je crois comprendre que nous avons le mécanisme d'objection légale, nous avons le GAC avec son propre mécanisme d'objection qui peuvent être présentés par l'intermédiaire du comité gouvernemental. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a des objections formelles et des processus de résolution de disputes. Alors, nous avons toute une série d'outils là-dessus. Il faudrait que nous voyions un peu comment nous allons nous servir de cela. Et enfin, Judith Harris. Si vous me le permettez, je vais parler de ce que je fais et qui je représente. Parce que c'est ma première fois dans une réunion de l'ICANN. Et je crois qu'il est important que vous sachiez, vous tous, qui nous sommes, ce que nous pensons d'une manière générale. Avant de prendre d'aborder cette question, je voudrais dire, pour répondre à Stacy, sur les questions de la colère, en général, quand je vais dans un processus de deuil par le passé, quelqu'un m'achète enfin le dîner ou me donne des crackers ou des cookies et je n'ai pas de réponse. Mais avant de venir, je ne savais pas trop si quelqu'un avait fait cela pour moi. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début, c'est que je suis une nouvelle venue. J'ai mis mon badge avec l'étoile verte pour indiquer que je suis une nouvelle venue. Je remercie l'ICANN de m'avoir souhaité une bienvenue cordiale. La bienvenue était tellement cordiale que même si je fais partie de ce panel, je n'ai pas d'ordinateur depuis ce matin. Cependant, c'est une excellente opportunité. Je suis donc Judith Harris. Je suis partenaire du cabinet d'avocats Reed Smith, de Washington. Reed Smith est une société d'avocats qui a 1500 avocats partout dans le monde. Nous avons 22 bureaux aux quatre coins de la planète. Nous représentons l'association des sponsors nationaux et je représente les avocats de Washington. Et comme le processus de l'ICANN, ceci est aussi un processus de travail ascendant avec une AIA. Nos membres sont venus nous voir et ils nous ont dit ce que nous entendons dire, qu'est-ce que nous devons savoir, etc. Stacy a raison, nous sommes passés par beaucoup d'étapes qu'elle a décrites. Et je crois, j'ai écrit ce qu'elle a dit, mais nous n'en sommes pas encore à l'étape de la dépression. Je ne sais pas si nous serons en colère pendant longtemps. Il y aura des négociations et je me rends compte maintenant et je me suis rendu compte de cela d'une façon différente lorsque j'ai été présente dans cette réunion qu'il y a un processus compliqué qui a été mis en place et je voudrais dire qu'il n'y a rien sur la position que nous avons prise et qui devrait être interprétée comme une proposition pour la création de nouveaux GTLD. Nous ne nous y opposons pas. Nous estimons qu'il y a une place importante pour ces nouveaux GTLD. Nous estimons que les ITLD peuvent avoir une importance incroyable de différentes manières. Je voudrais aussi souligner que nous ne nous opposons pas du tout au processus au processus multipartite. Nous avons beaucoup appris, nous essayons de mieux comprendre, nous soutenons et nous participons à ce processus, mais nous croyons que la meilleure façon de préserver ce processus des multiples parties prenantes, c'est de faire tout ce que nous avons à notre portée pour que la perception de l'ICANN soit plus claire, c'est-à-dire faire savoir que l'ICANN travaille de façon cohérente avec l'affirmation d'engagement. Lorsque l'ANA est venue nous voir et qu'ils nous ont demandé, l'ANA a fait une coalition qui a maintenant plus de 160 membres, dont quelques-uns des associations les plus grandes, non seulement aux États-Unis. Des choses telles que la Chambre de commerce, l'Association des constructeurs automobiles, etc., etc., ainsi que des entreprises plus importantes qui ont repris le leadership pour des raisons évidentes, parce qu'elles ont les ressources pour le faire. Mais ce n'est pas un problème, comme un bon nombre d'entre vous l'a dit, par rapport aux entreprises les plus grandes. Cependant, nos organisations comprennent des organisations telles que Siemens, GE, Procter & Gamble et beaucoup d'autres sociétés qui ont non seulement quelques marques, beaucoup d'entre elles ont des milliers de marques déposées et je ne vais pas aller chercher du côté des mathématiques. Mais c'est un effort énorme pour les personnes pour pouvoir monitorer, pour pouvoir suivre et pour maintenir les marques, pour protéger les valeurs et les ressources dans lesquelles ils ont investi, puisqu'ils ont investi des ressources. Ils ont investi du temps pour créer des marques avec une valeur. Cette coalition, comme je vous le dis, je voudrais vous dire que bon nombre des membres des CRIDO, CRIDO c'est la coalition de supervision des noms de domaine. Nous avons une page web www.crido.org. Nous avons plus de 160 membres et ce nombre s'accroît tous les jours. Nous recevons aussi des commentaires sur le besoin d'avoir une liste de ne pas vendre. Nous reconnaissons que les problèmes du deuxième niveau sont encore plus grands et plus importants et nous essayons de nous impliquer là-dessus, si on nous le permet, pour résoudre les thèmes du deuxième niveau. En ce moment, nous nous centrons sur le premier niveau. Voilà ce que je voudrais dire. Et commenter, c'est que nous croyons vraiment que l'approche de ce problème, si elle est faite aujourd'hui, même si c'est tard, cela pourrait résoudre déjà quelques problèmes pour ICANN dans l'avenir. Non seulement pour les propriétaires des marques, il se peut que si nous créons une liste de ne pas vendre, nous pourrions éliminer le besoin du traitement par batch. Il y a eu des discussions et des débats dans toutes les réunions sur la manière de diviser et traiter par lot, comment cela pourrait susciter des litiges et des différends. Et comment on pourrait travailler de façon juste. Il y a une possibilité dans la création d'une liste de ne pas vendre par les personnes qui demandent une stratégie d'enregistrement défensif. Bon, nous demandons à ceux qui se préparent pour avoir une demande d'enregistrement défensif. Nous pourrions savoir que les demandes de candidature réelle, description de ceux qui veulent vraiment exploiter de façon affirmative, qui veulent faire des registres, puisse être dans le lot de 500.
Il serait peut-être utile pour la supervision du département du commerce d'avoir ou de suivre ce processus lorsqu'ils ont à évaluer le temps fini. Alors, nous allons passer aux recommandations à la transparence, voulez-vous? Je n'ai pas le petit appareil pour passer les diapos. Je crois que nous pourrions résumer tout cela et puis après passer aux commentaires des participants, des assistants. On peut faire une résumé de ce que nous proposons pour le commentaire public. Et puis, il y a trois variations sur la liste de ne pas vendre ou de non-enregistrement, ou le GPML. Nous avons aussi une idée d'une fenêtre, d'une période entre le mois de mai, entre le 1er mai. Nous avons encore un mois lorsque les candidats ont plus de 130 000 $ permis dans le guide de candidature. Nous avons aussi l'ordre de traitement par lot. Et nous suggérons à l'ICANN et aux IDN communautaires et géographiques pour qu'ils puissent le faire Et nous avons aussi le mécanisme de protection des droits. Et pour finir, nous avons l'architecture du programme pour qu'il soit moins ouvert aux nouveaux venus. Le micro est ouvert. Merci de ce panel très intéressant. Je m'appelle Cathy Kleiman. J'ai DOSTI. Il s'agit d'un groupe qui s'occupe des rapports IRT. Et il va y avoir aussi des regroupements. S'il vous plaît, rappelez-moi le concept pour voir si c'est correct. Mais c'était que l'ICANN allait créer la première liste de marques connues au niveau international qui n'existent pas dans l'organisation de la propriété intellectuelle ou ailleurs. Et maintenant, l'ICANN doit créer cette liste. Il va s'agir d'une petite liste, bien qu'il y ait des milliers de marques qui devrait figurer sur cette liste. On réserverait cette marque du premier et du deuxième niveau de tous les domaines de haut niveau, de premier niveau. Que se passe-t-il avec .cl, la marque de Deloitte, Caterpillar et Virgin? L'idée de ces mots réservés au premier et au deuxième niveau, nous semble-t-il, c'est la folie. Ma fille, elle adore les petits animaux. Et si elle doit aller à Caterpillar pour prouver un droit, eh bien, c'est absurde. Retournons au commentaire de Steve sous Apple. Et je parle au niveau personnel. Si nous avons point Apple et nous avons les producteurs de pommes et le lien avec les ordinateurs, alors il y aurait une réservation de deuxième niveau pour confirmer la demande. Pour considérer la candidature, tout cela est spécifique à partir du contexte et à partir du contenu. Un membre du panel veut répondre. Tu parlais de Caterpillar. Je comprends bien ça parce que les soucis viennent au deuxième niveau. Constantino a dit que c'est dangereux de réserver des marques. Que veut dire être dangereux? C'est le fait d'avoir des tas de mots génériques comme .web, .shop, qui peuvent avoir le danger d'attaquer le point banque, etc. Moi, je n'achète pas de machines pour fabriquer des routes, mais il y a certains noms qui sont susceptibles de fraude. L'organisation de Stacy parler des marques déposées ou similaires qui ont une longue histoire de fraude qui nous amène au véritable danger. Et si vous voulez ajouter quelque chose, l'un des commentaires que j'aurais à faire, c'est que lorsqu'on a suggéré le GPML pour la TRT, j'ai compris qu'il faudrait penser sur un critère, une partie du problème. J'avoue, c'est qu'il y a l'ISTER au sein de l'ICANN et les propriétaires de marques nous disent qu'on ne peut pas utiliser des termes génériques et tous les termes génériques devraient aller au GTML. Il y a des gens au sein de la communauté qui sont convaincus de cela, aucun doute. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de propriétaires de marques qui veulent s'asseoir et parler. Et je crois que tout cela peut être bien géré. On voit des fois des réactions de ces entités qui amènent sur la table ces sujets. Et dans l'avenir, peut-être, le débat sera bien différent qu'au passé. Depuis la perspective de la communauté, il y a tellement de choses acceptées. Un système massif de protection des noms. Il y a tout un éventail, non seulement les producteurs de pommes ou d'ordinateurs, Apple Records ou quoi que ce soit. Ils se disent entre eux que tous sont coupables. Hein? Le monde est gris, ni blanc ni noir. Autre question? Starwood, je voudrais faire deux commentaires. Tout d'abord, les candidats standards qui auront à tenir leurs promesses. Ça, je l'ai dit, il y a beaucoup d'années, il y a très longtemps. À ce moment, il paraissait que j'étais contre le système, mais ceci a trait, à vrai dire, à dire la vérité. On ne peut pas dire que les mensonges sont bien. Je n'aime pas ces intentions. Il y a beaucoup de détails dans les candidatures qui ne sont pas l'essence. Cela a trait à l'essence. Et je crois que nous n'avons pas identifié la terminologie clé. Très probablement, le mot externalité ou coûts externes consiste à l'un des éléments cryptiques vis-à-vis du maintien de la candidature standard. Pour qu'elle respecte ses promesses sans provoquer des externalités ou de porter préjudice avec des résultats différents. Et voici un sujet qu'il faut clarifier. Tout cela sera utile pour les gens qui pensent qu'il faut éviter la candidature d'une communauté. Bien qu'il s'agisse d'une communauté, les gens disent « Nous sommes une communauté parce que nous avons peur. Il ne faut pas avoir peur. La communauté doit faire son travail et elle doit se soumettre à des normes. » Et deuxièmement, l'énorme pression. On demande aux gens de quitter le stade plein par la même porte et après on leur dit qu'ils ne vont pas pouvoir sortir. Il faut sortir maintenant. C'est la manière de créer la peur, la panique. C'est ce que je répète depuis des années. Il faut que nous ayons la possibilité d'avoir un nombre plus faible de candidatures, ce qui va nous permettre que ceux voulant un TLD soient en mesure de l'obtenir sans avoir peur d'être derrière la concurrence. C'est une manière facile de se communiquer avec le client. La plupart des candidats sont préoccupés notamment par le fait de ne pas pouvoir jouer dans ce champ, dans ce stade, si les autres ont des avantages depuis longtemps. Voici un grand débat. Je suis d'accord avec Kevin. Ce n'est ni blanc ni noir. On parle d'avoir un débat plus étendu avant que le domaine soit au sein du système. Il va y avoir des grilles. J'aime bien avoir mené ce débat. Cela ne veut pas dire que nous avons un droit équivoque, l'idée de la famille ATT. Et je veux le savoir auparavant. Et s'il y a d'autres arguments, je veux les débattre avant d'avoir à faire une présentation post facto. Il ne s'agit pas d'un droit qui ne fait pas partie du processus et c'est un engagement, un bon engagement pour résoudre les problèmes. Il s'agit d'une solution vers l'avenir qui peut nous aider à résoudre ce genre de problème. Je voulais signaler que nous avons 10 minutes et puis après il y a le forum public qui commence. Nous devons faire très vite avec les questions-réponses. Dans 6 ou 7 minutes, il y a le forum public qui commence. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons mettre en place, hein? Pas ce qu'il aurait fallu faire il y a longtemps. C'est déjà trop tard pour faire ce qu'il aurait fallu faire avant. Encore une fois, je vous dis que je suis ravie de ce que vous faites. Nous sommes les gentils de toute cette histoire. Je voulais signaler ce que j'ai déjà mentionné à la propriété intellectuelle. Il y a certains acteurs qui ne travaillent pas bien. Je suis contente de les aider à poursuivre les bureaux d'enregistrement frauduleux. Pourriez-vous lutter ensemble en faveur des droits de la communauté de la propriété intellectuelle? Je crois que Nick et Steve ont signalé la question du contentieux. Je crois que cela peut se poursuivre avec l'accord des parties. Je crois que sous les normes établies, bien sûr, il y aura différentes interprétations, mais je crois que les PDDRP captureraient l'exemple que tu as mentionné parce qu'il ne s'agit pas seulement des noms percés, mais de toute cette ambiance de conspiration. Il y aurait zéro trafic de frappe avec un tel dé ayant recours à la vente de génériques. Alors, l'une des belles questions sur la passion de, sur les noms, c'est que nous allons voir des patrons de trafic tout à fait différents. La raison pour laquelle nous avons ce type de squattage, il y a des tonnes de tout cela parce que l'on restreint artificiellement le .com. Il n'y a rien qui puisse éliminer le type coding comme la base de nom. Quelques questions avant de répondre à partir du panel. Il y a peut-être une différence entre l'utilisation au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais lorsque vous dites « Ah, je te l'ai dit avant hein, », normalement, on le dit après le fait lui-même. Nous avons une horreur hypothétique dans ce cas parce que ce que je dis aux gens, c'est qu'il va avoir un mouvement à la dernière minute avec des discussions des dernières années. Il y a depuis 2010, on discute sur ce point et on va entendre encore et encore la même chose. Par exemple, on a commenté que dans les étapes précoces de candidature de GTLD, ce n'est pas quelque chose que l'on a entendu la semaine dernière. Hein. Ça fait longtemps qu'on a entendu parler de ça, sauf qu'il y a un sérieux problème de communication. Il y a des membres qui ont des années de travail dans ce processus. Ce n'est pas possible qu'ils soient si mal informés. L'ICANN devrait avoir un organisme spécialisé en propriété intellectuelle capable de se communiquer avec eux et de les informer. Ce concerné et les gens qui ont un intérêt avec eux. Mais étant donné la quantité de milliers et de milliers de marques existantes, il y en a 250 possibilités de présenter la candidature. Nous avons environ quelques 10 000 chaînes de caractères, mais il ne va pas y avoir des milliers et des milliers ou des centaines et des centaines affectées par le premier niveau. En premier lieu, j'ai pas dit milliers, j'ai dit les membres ont des milliers de marques. Je n'ai pas dit qu'ils étaient tous là. En deuxième lieu, Anna a participé d'un processus. Ce qui est important pour les gens qui habitent au sein de l'ICANN, au sein de cet écosystème, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des données différentes et qui n'ont ni les ressources, ni d'argent, ni de temps pour contrôler ce genre de questions. Je ne peux pas vous dire que lorsque j'ai commencé mon travail, la quantité de gens qui sont venus nous voir et des gens ayant participé du processus nous provoquait c'est-à-dire on se demandait, on parle de ça depuis des années, mais personne ne nous écoute. Alors, n'essayez pas de nous envoyer ce message. Il n'y aurait pas eu de différence si nous avions consacré plus de ressources à cette question pendant les dernières années. Je m'appelle John. Sur le point du GPML, ce que nous disions il y a 2 ans, c'est qu'il faudrait considérer cela. Et maintenant, Nous voyons ça à la dernière minute. Cette liste de blocage est controversée. Elle peut fonctionner ou pas. Mais ce n'est pas une bonne position de l'étudier aujourd'hui. Monsieur Pleisch, du groupe de charité qui travaille là-dessus, il y a eu un grand débat qui a été mené par rapport à la constitution de cette liste. La nouvelle idée, c'est que peut-être le conseil d'administration pourrait inclure dans sa réponse à l'RFP de Yana, si vous le souhaitez. Il y a des marques qui ont investi pas mal d'argent pour poursuivre avec l'enregistrement de TDLD défensifs. Ils ont déjà dépensé l'argent et ils attendent toujours. C'est déjà fait, c'est fini. Ma proposition est comment épargner de l'argent dans l'avenir. La solution est la suivante. Quand j'ai commencé ce processus en 2008, j'ai renégocié avec Pointcop le contrat de registre. Et dans le contrat, aujourd'hui, on ne paie que 5 000 $ par an pour jusqu'à 50 000 noms. Mais une marque présentant sa candidature à ce jour doit payer à l'ICANN 25 000 $ par an. Point Museum paie 500 $ par an. Donc, il y a des corporations qui paient 185 000 $ par an et qui vont avec le TLD pour lequel on paie 10 000 $ par an pour avoir deux domaines et 25 000 $ à l'ICANN. Ça fait 35 000 $ par an. Pour deux noms de domaine enregistrés dans le TLD. L'option est la suivante. Fournir au bureau d'enregistrement et aux candidats qui commencent avec le processus et leur donner l'option de ne pas payer les 25 000 $ au bureau d'enregistrement. C'est peut-être enlever de l'argent aux fournisseurs, y compris les consultants comme moi. Mais si nous voulons épargner de l'argent, on peut le faire et on peut épargner 35 000 $ par an ou plus. Une nouvelle idée, nouveau GPL. Un commentaire de plus, et puis Bertrand et Bruce, et puis on passe à la clôture de la séance. On va parler des nouveaux GTLD, l'instabilité provient d'une activité de réserve de domaine. On ne peut pas laisser ça de côté pour protéger la marque. L'intention de fold des noms de domaine avec les coûts, beaucoup de temps pour ceux qui travaillent dans ce domaine et une valeur négative pour la communauté. Étant donné la gestion du panel, ne devrions-nous pas faire un pas en arrière et reconsidérer le processus tout entier? Bonjour, je m'appelle Bertrand de la Chapelle. J'appartiens au conseil d'administration de l'ICANN et je parle ici en tant que membre de l'ICANN et pas en représentation du conseil d'administration. Je parle à titre personnel. Je suis d'accord avec Constantino pour ce qui est que ceci n'a pas trait au cybersquattage. C'est une question de scrutin. C'est trop cher. Le cybersquattage ne va pas essayer de prendre des noms de marques. On parle beaucoup des défis pour les propriétaires des marques. Il y a des défis légitimes. Il y a des mécanismes mis en place dans le guide de candidature. Je veux souligner l'extension des droits des propriétaires de marques et des marques déposées dans ce processus qui va bien plus loin que l'existence de ce régime. Si nous suivons cette classification, aucun propriétaire de marque qui produit ou qui vend des vêtements, par exemple, n'avait pas le droit de protection pour Point Musique. Dans ce cas, il l'a. Et c'est peut-être bien, je ne sais pas, le fait que la communauté a octroyé une extension, un autre mot par rapport à l'extension, un mot de plus, si vous le pensez, l'OMPI n'a jamais pu traiter la protection des marques globalement. Et les propriétaires de marques savent que s'il y a un niveau supérieur, le mieux qu'ils peuvent trouver, c'est un enregistrement de marque globale de classe unique qui n'existe pas à ce jour dans le système des marques et qui pourrait être bien. Pensez-le. Pour finir, je prends l'enregistrement défensif et je peux dire qu'à Cartagena, avant d'être membre du conseil d'administration, j'étais sur le point d'être membre. J'ai fait une approche spécifique au regroupement de la propriété intellectuelle sur un problème où il y avait deux marques ayant droit au même type à la même chaîne de caractère, American Express et une autre société américaine. J'ai fait une proposition explicite pour voir comment gérer ça. J'ai vu les représentants de ce regroupement et je leur ai dit deux fois, consultez avec votre groupe, donnez-moi votre feedback. Si je n'ai pas de feedback, je vais considérer qu'il ne s'agit pas d'un problème. Personne ne m'a répondu. Je considère que ça a été un défaut du processus et de l'interaction de notre communauté. Finalement, nous sommes en train d'arriver à une nouvelle phase pour réexaminer ce qui a été fait dans le passé. Notre défi, c'est qu'il y a un programme au mois de mai. Il va y avoir une liste de caractères. Et c'est notre responsabilité, celle de la communauté des parties prenantes, de profiter de tous les outils de communication disponibles pour que les gens sachent qu'il va y avoir une liste et qu'il y a des mécanismes de protection disponibles. Peut-être ces mécanismes ne sont pas disponibles. C'est votre responsabilité à vous et la responsabilité de l'ICANN que cette communication soit forte et claire et nous souhaitons la bienvenue à toute interaction avec IANA, CRIDO et tout autre réseau pour que cette communication soit efficace. Merci. Je voudrais dire maintenant que je suis intéressée à cette problématique. Je suis employée d'un bureau d'enregistrement. J'ai donc un intérêt. Je suis membre du conseil d'administration de l'ICANN et je ne suis pas concernée par les candidatures d'enregistrement défensif, mais je vais le voter. Je voulais signaler qu'il y a beaucoup de fusion entre le premier et le deuxième niveau, où l'on a un cadre différent de protection. C'est à ces deux niveaux. Il est important de savoir la différence. Tout d'abord, je soutiens les droits légaux. Au plus haut niveau, le mécanisme pour la préservation des droits, c'est quelque chose qui est publié et ceci a été posté en novembre. Il y a beaucoup de mécanismes pour gérer tout cela. On peut aller au candidat et le convaincre de se retirer. Nous pourrons aussi avoir le remboursement d'une portion des frais payés. Et nous pouvons aussi mener un processus d'objection. Il y a la confusion des chaînes. Les communautés peuvent présenter des objections. S'il y a quelque chose qui a été mal fait du point de vue moral, les gouvernements peuvent présenter des objections aussi. Il y a entre 6 et 10 manières pour faire des objections. Mais nous avons un nom, nous avons 5 mois pour mener ces discussions afin d'éliminer ce que nous voulons éliminer. Si nous avons les droits légaux mentionnés, il y a des mécanismes pour ce faire. Deuxièmement, au deuxième niveau, il s'agit là de quelque chose de très important que l'on a solutionné. Il s'agit d'un mécanisme post facto, après le fait. Nous avons 3 mois pour avoir pour mener les débats. Et au deuxième niveau, quand quelqu'un enregistre un nom de domaine au deuxième niveau, il faut surveiller l'utilisation du nom. Sur la base de ce nom, nous avons l'URS, le mécanisme de suspension rapide, et l'UDRP, qui est un peu plus long, et bien sûr, les tribunaux. Mais tout ceci post facto. Le problème de l'industrie, c'est que les gens peuvent faire de l'argent pendant le temps de l'enregistrement et jusqu'à ce que l'on trouve une résolution, jusqu'à ce qu'on arrive à une résolution de la dispute. Il y a un concept de GPML qui peut surgir et nous pouvons aussi avoir des noms de deuxième niveau qui sont publiés. avant leur enregistrement, il y a l'habilité pour exercer les droits légaux pour les noms de premier, de deuxième niveau, pardon. L'exigence est de traiter le deuxième niveau pour cette CLAP comme s'il s'agissait du premier niveau. Pour demander une exigence du deuxième niveau, par exemple la Croix-Rouge et aussi les propriétaires de droits pour faire une objection. Dans cette discussion, nous discutons sur le deuxième niveau. Personne ne nous a expliqué ce qui se passe avec les droits légaux du premier niveau. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je peux enregistrer un nom au niveau le plus élevé, mais ceci affecte les droits. Il paraît que la question est complexe. Nous n'avons pas avoir le temps de le résoudre ce jour-ci. Merci beaucoup aux membres du panel et nous nous préparons maintenant pour le forum public. Merci beaucoup.